Entente de vie commune, garde d'enfants, pension alimentaire, divorce, séparation. Voici Maître Kim Beaudoin, votre experte en droit de la famille. Avocat à Gatineau.com.
C'était beaucoup trop d'informations pour une seule chronique, donc on va reprendre cette semaine avec la suite du fameux calcul de la pension alimentaire pour les enfants. Évidemment, dépendamment du système de garde que vous avez, temps par garde partagé, etc., etc. Et on va continuer aujourd'hui, notamment sur la question des frais particuliers. Et Dieu sait qu'il y en a, des frais particuliers. Pour en parler, je vais aller rejoindre l'avocate en droit de la famille, Maître Kim Beaudoin est avec moi. Allô, Kim?
Salut, Rock.
Alors, suite de la chronique de la semaine passée, parce que c'était trop gros pour en faire qu'une seule, donc on va aborder la suite du calcul de la pension alimentaire pour enfants. Et là, on va parler des frais particuliers.
C'est ça.
OK. C'est quoi ça, un frais particulier?
Bien, un frais particulier, ça peut être des frais de garde, ça peut être des frais de vêtements, ça peut être des frais de sport, ça peut être le dentiste, ça peut être plein de choses. C'est des frais que nous devons payer pour nos enfants en surplus.
En surplus de quoi?
Bien, surplus de la nourriture, surplus de le logement. Donc, on a des enfants à la maison, là, puis on s'en rend pas compte qu'ils nous coûtent très cher parce que on paye des choses pour eux avec nos propres dépenses. Mais un frais particulier, ça peut être aussi un frais qui est particulier pour cet enfant-là.
OK.
Peut-être que ça l'éclaircit plus.
OK.
Et puis, il y a différents styles de frais particuliers, tout dépendant du style de garde aussi. Donc, il y a différentes façons de calculer un frais particulier.
OK.
Puis là, je m'explique.
Tu vas essayer de nous expliquer ça pour qu'on comprenne.
C'est ça.
OK.
Les parties sont en garde partagée.
Parfait.
Et puis, donc, lorsqu'il y a une garde partagée, il y a une pension alimentaire de base, mais après ça, il y a un partage moitié-moitié de certains frais. C'est quoi les frais qu'on partage moitié-moitié? Bien, ça va être l'habillement saisonnier. Hein, les vêtements de tous les jours, là, les bobettes, les chandails, les t-shirts, les jeans, etc., ça, on ne partage pas ces factures-là. On s'imagine que chaque parent a la garde-robe nécessaire pour leur enfant à la maison. Mais il y a les frais les vêtements de dehors, les vêtements saisonniers, les bottes d'hiver, les souliers, les manteaux. On ne s'attend pas à ce que les enfants aient deux paires de bottes d'hiver, deux paires de souliers, deux paires de manteaux, deux manteaux. On veut un partage. Donc, les parents vont partager ces frais-là moitié-moitié.
OK, parfait.
OK.
Alors, attends une minute. Alors, les parents partagent moitié-moitié. On est toujours dans la garde partagée. Ça veut dire qu'on a l'enfant...
Dans une garde partagée.
OK, c'est ça la prémisse, là. Alors, c'est 50-50, nonobstant qui paye, puis nonobstant les revenus des gens.
Oui, exactement, parce que quand on paye une pension alimentaire, c'est pour amener les revenus semblables. On les ramène au même niveau. Fait que si on les ramène au même niveau, après ça, le partage des frais généraux vont être moitié-moitié. Un autre exemple d'un frais qui va être moitié-moitié, ça va être les frais scolaires. Donc, l'inscription, les livres, matériel, fournitures scolaires, ça va être payé moitié-moitié. Les activités scolaires, les activités parascolaires, ça, c'est payé moitié-moitié.
OK, parfait. Okay?
Mm-hmm. Un frais particulier qui n'est pas payé moitié-moitié,
oui.
C'est le frais là que, tu sais, tous les enfants sur le bloc n'ont pas les mêmes frais. S'ils ont tous les mêmes frais, là, moi, je dirais là, que ça, c'est facile parce qu'on est capable de dire, OK, on doit tout acheter des manteaux pour nos enfants. On doit tout acheter des bottes pour nos enfants. Oups, un frais dentaire. Les frais dentaires, c'est pas chaque enfant qui a les mêmes frais dentaires. Donc, ça, c'est particulier. Et puis ça devient au prorata. Au prorata du revenu des parents.
Parfait.
OK? Donc, même si c'est une garde partagée, un frais qui est particulier, que ce n'est pas tous les enfants qui ont les mêmes frais, ça, c'est au prorata des revenus.
Okay.
Tu me parlais tout à l'heure de Saint-Alexandre. Si on décide que nos enfants vont à Saint-Alexandre ou à une école privée, bien ça, c'est au prorata des revenus.
OK, OK.
OK, donc c'est pas moitié-moitié.
Okay.
Puis parce que nous, on aime faire compliquer les choses, les activités sportives,
oui,
sont à 50-50.
Ah.
Jusqu'à concurrence de 5%. 5% des dépenses des enfants. Après ça, ce qui dépasse le 5%, ça, c'est au prorata des revenus.
OK. Un petit peu compliqué.
Oui, c'est ça. Oui. Il y a toujours une petite catch là, pour rendre ça un tout petit peu difficile.
OK.
Une fois qu'on a payé ces frais-là, puis là, il y a un aspect qui devient plus compliqué. Puis moi, je dis toujours aux gens, on va les sortir, ces frais-là, du formulaire. On ne les rentre pas dans le formulaire de fixation de pension alimentaire, c'est les frais de garde. On dit aux parents, regardez vos frais de garde nets, les frais nets et non bruts. Donc, après qu'on a eu toutes les déductions, les crédits fiscaux, puis tout ça, une fois qu'on a fait ce calcul-là avec nos rapports d'impôts, on partage les frais. Fait que les frais sont supposés d'être partagés au prorata des revenus, parce que c'est un frais différent. Puis même chose avec les frais d'études postsecondaires, encore au prorata des revenus.
OK, OK.
Okay? Puis ça, c'est indépendamment encore de la garde. Maintenant, c'est pas une garde partagée, puis c'est une garde simple ou une garde avec des accès prolongés.
Ouais.
Là, tous les frais que j'ai nommés, c'est au prorata des revenus.
Ah, OK. Ça change.
OK. Okay. Ça change complètement. Là, il n'y a plus de partage moitié-moitié pour absolument rien. Ça revient tout au prorata des revenus.
OK. Je comprends. Est-ce que je peux te donner des situations, puis tu vas me dire comment est-ce qu'on le partage?
Oui, tout à fait.
Mais on revient avec garde partagée, d'accord?
OK. Donc, tous les scénarios, c'est une garde partagée?
Oui.
OK.
Parfait. Et surtout, je vais te poser la question, c'est quoi le pourcentage, le prorata, mais ultimement, je veux savoir aussi qui a le pouvoir de décider. C'est correct?
Oui.
OK. Alors, Pichounette, secondaire 4, a un voyage de fin d'année à New York pour 3 jours. Ça coûte 1 000 $.
Au prorata des revenus. Et puis le pouvoir de décider, c'est le tribunal qui a le pouvoir.
Oui, mais est-ce que madame pourrait dire « Ah, il va, ça vient de s'éteindre? » Non.
Non. Non. Si madame veut que l'autre parent participe aux frais, elle doit obtenir le consentement de l'autre parent.
OK.
OK. Si elle n'a pas le consentement de l'autre parent, elle peut, parce qu'on n'est pas pour être toujours devant le tribunal non plus. On garde des petits litiges de côté, puis éventuellement, on retourne au tribunal en disant à l'autre parent, bien, ça, là, éventuellement, je vais faire la demande, puis c'est le tribunal qui ordonnera. Okay. Fait que là, on peut garder ce litige-là pour plus tard aussi. Okay. Mais c'est pas madame qui décide, puis c'est pas monsieur en refusant tout. Tu sais, c'est facile pour l'autre parent de dire non, je refuse. Non,
ben,
je refuse.
Ben, c'est sûr. Mais là,
fait que là, à ce moment-là, ça donne le pouvoir aux parents qui refusent.
Si je change,
ultimement, c'est le tribunal qui décide.
Si je change juste pour cet exemple-là, plutôt qu'une garde partagée, c'était madame qui a la garde, monsieur a des accès. Est-ce qu'à ce moment-là, puis là, il paye au prorata, est-ce que madame aurait plus un mot à dire sur le voyage?
Non. Non, pas lorsque on veut imposer des frais à l'autre parent.
D'accord.
Mais il y a une grande différence entre imposer des frais à un parent qui gagne 30 000 par année puis imposer des frais à un parent qui en gagne 150. Donc, le parent qui gagne 150, qui retient son consentement constamment pour des dépenses, on peut commencer à dire que ce parent-là est peut-être de mauvaise foi.
OK. Alors, je reviens sur mon exemple encore. Là. Je reviens garde partagée, d'accord?
Oui.
OK. Garde partagée. Argent de poche. On veut donner 50 $ par semaine d'argent de poche à Pichounette. Elle a 14 ans. Je dis n'importe quoi, là. Fait que c'est 200 par mois. Comment on partage ça?
Bien, c'est durant ta semaine, tu lui donneras bien ce que tu veux. Mais durant ma semaine, moi, je vais lui donner ce que je veux. Puis, s'il te plaît, ne m'impose pas ce que tu veux donner à notre enfant durant ta semaine.
OK.
Et ça, c'est pas la même chose du tout.
Ah.
Okay, ça, c'est on ne peut pas demander à un parent de donner l'argent de poche à l'autre enfant de façon continue. J'ai jamais vu là, un jugement là, qui l'autorisait, ou en tout cas, pour moi, là, ça se fait même pas, ça.
OK, parfait. Mon fils a 16 ans, je veux qu'il prenne des cours de conduite. Qui c'est qui paye les cours?
Encore, ça prend le consentement de l'autre parent. OK. Ça prend toujours le consentement de l'autre parent, Rock. Et puis, ultimement, le tribunal va décider. Il y a des fois où le tribunal dit, bien, l'enfant veut un cours de conduite qui travaille ou qui en paye un tiers. Les deux parents devraient. Le tribunal va beaucoup regarder les revenus des parents. Est-ce que c'est une dépense qui est exagérée ou pas? Est-ce que l'autre parent peut se permettre cette dépense-là?
OK. Qu'en est-il de, par exemple, les passes d'autobus, les passes de transport, etc.? Si, par exemple, la séparation a lieu, puis monsieur est rendu à Montréal, madame est ici, puis une fin de semaine sur deux, ils doivent prendre l'autobus, les enfants doivent prendre l'autobus pour aller rejoindre l'autre parent, mettons, quelque chose comme ça.
Ça peut être une raison pour diminuer le paiement de la pension alimentaire. Si l'autre parent dit, si le parent qui a la garde dit, ben moi, je refuse participer à ces frais-là. Donc, tu dois elle dit aux parents qui veut exercer les accès, tu dois les payer à 100%, OK? Mmh. Et je vais demander au tribunal de réduire mon obligation alimentaire. Pourquoi? Parce que j'ai certaines difficultés dans l'exercice de mes accès qui font en sorte que moi, je devrais... Mais le tribunal ne va pas dire, OK, pas de pension alimentaire parce qu'il y a des frais de transport. Ils vont juste peut-être réduire la pension alimentaire pour prendre en considération le coût pour exercer les accès.
Je comprends. Peut-être dernier point, oui.
Mais je vais revenir aux frais de transport, par exemple, Rock, parce qu'il y a des frais de transport aussi. Hein, l'enfant doit aller à l'école, il y a des frais d'STO.
Oui.
Il y a des frais de transport pour aller à l'école. Oui. L'enfant doit prendre une passe d'autobus. Mais cette passe d'autobus-là n'est pas comprise dans la pension alimentaire. C'est un frais particulier qui doit être partagé.
Oui, okay?
Donc, et puis, si l'enfant a une passe d'autobus plus des frais de transport pour l'autobus jaune, puis l'autobus jaune passe juste à une maison, mais pas à l'autre, puis l'autre, c'est une passe STO,
ouais.
On prend les deux frais. On les met ensemble, puis on les partage. C'est pas un parent qui paye, mettons, c'est 50$, puis je sais pas combien ça coûte pour l'autobus jaune, là. Mais l'autobus jaune coûte moins que la passe STO. C'est pas chaque parent va assumer son propre transport.
Non, non.
Les deux parents ont des frais particuliers qui doivent être partagés.
Je comprends bien. Dernière question, puis ça doit être très rare là, que ça s'applique, mais on considère comment les revenus des enfants. L'enfant gagne X nombre de milliers de dollars parce qu'il y a une job assez payante l'été, puis bon, etc. L'argent de l'enfant, est-ce qu'il s'ajoute dans la pension de un ou de l'autre?
Tout à fait, puis c'est pas rare du tout, hein.
Ah.
C'est tellement pas rare que la Cour d'appel en a fait un calcul puis a dit comment qu'on devrait le partager, ces coûts-là. Et aussi, ça dépend encore ça devient un gros litige parce que il y a des fois là où l'enfant gagne le double, si pas le triple, de la pension alimentaire payable. Mais là, à ce moment-là, moi, je dis à mes clients, mais peut-être qu'il y a lieu de reconsidérer la pension alimentaire, hein, lorsque la pension alimentaire annuelle est peut-être 6 000, 8 000 $ et puis l'enfant en gagne 20 000, peut-être que l'enfant n'a plus besoin qu'on se souvienne à ses dépenses.
Très intéressant.
Peut-être que l'enfant est capable. Et puis après ça, il y a une autre façon de faire les choses aussi. On peut dire à l'enfant, mais tu vas payer tes frais particuliers parce que ton revenu est assez gros. Donc, tu payes tous tes frais particuliers et puis nous, on va continuer à subvenir à tes besoins de base.
Mm-hmm.
Donc, ça aussi. Et puis après ça, une autre façon de calculer les besoins de l'enfant, c'est en disant, mais un tiers des revenus de l'enfant vont aller à payer ses besoins.
Oui, je comprends bien. Excellent. Ben, c'est pas simple. C'est des cas d'espèce. Il y a des principes de base. Puis c'est pour ça qu'il faut faire affaire avec une experte ou un expert quand ça vient compliqué. Merci beaucoup, Kim.
Merci, Rock.
OK,
bye.
Salut. Maître Kim Beaudoin, notre avocate en droit de la famille. Voilà, petite musique veut dire à demain. Je vous retrouve demain, justement, pour un autre solide comme le Rock. OK, bye.